Émission On en jase sur Boulevard 102.1 avec Jeff Fortin, Pascal CV. C'est le retour de Pascal aujourd'hui de son 2 semaines de vacances. À la météo, c'est une autre belle journée. C'est moins 3. Passage nuageux, soleil. Moins 6 demain, alternance de soleil et nuages. Et moins 7 pour mercredi avec de la neige intermittente. Mais on ne parle pas de grosses accumulations à l'heure actuelle. Pas comme à New York où il tombe présentement de 60 à 70 cm de neige. La ville de New York est fermée, les amis. Imaginez, c'est très rare qu'on voit la grosse pomme fermée. Éric Ouellette est en attente pour nous parler de ce conflit entre l'armée mexicaine et les cartels là-bas. Mais avant, Pascal, il y a un gros breaking news dans le dossier Jeffrey Epstein.
Oui, l'ex-ambassadeur britannique Peter Mandelson vient d'être arrêté. En fait, ça s'est fait ce matin. L'ancien ambassadeur du Royaume-Uni, Peter Mandelson, dans le cadre d'une enquête pour faute dans l'exercice de ses fonctions officielles. Et ça découle de ses liens avec Jeffrey Epstein. Donc, la police a indiqué qu'il y avait des agents qui ont arrêté un homme de 72 ans qui est soupçonné de faute dans l'exercice de ses fonctions, comme je vous disais. Et on n'a pas nommé Mandelson conformément aux pratiques de la police britannique, mais le suspect dans cette affaire-là avait déjà été identifié. Donc, on le sait que c'est lui en ce moment. L'enquête, c'est sur des documents qui suggèrent qu'il aurait transmis des informations gouvernementales sensibles à Epstein il y a une quinzaine d'années. Donc, il fait l'objet d'aucune accusation d'inconduite sexuelle. Mais ça, c'est vraiment particulier. Il y aurait transmis des informations gouvernementales à Epstein.
Ouais, alors, le milieu politique britannique qui continue d'être éclaboussé par ce dossier de Jeffrey Epstein, parce que la semaine dernière, on le rappelle, c'est le prince Andrews qui a été arrêté justement par les services de police là-bas, concernant justement des informations sensibles qu'il aurait transmis à l'ex-mania là, new-yorkais là, qui était accusé là, de trafic sexuel. Ça a été prouvé par plusieurs victimes et qui est décédé dans sa cellule avant son procès. On s'en va de ce pas rejoindre Éric Ouellette, qui est notre spécialiste en conflit militaire ici à l'émission On en jase sur Boulevard 102. On va parler de ce qui se produit au Mexique. Éric, comment vas-tu?
Ça va bien, ça va bien. Ici aussi, la température s'améliore.
Ah, parfait, tant mieux. Éric, dis-moi donc, est-ce que cette opération-là de l'armée qui est allée éliminer le plus grand dirigeant de cartel au Mexique était planifiée depuis longtemps et est-ce que les Américains étaient dans le coup?
Pour ce qui est de la planification, on peut sûrement penser qu'il y a eu plusieurs mois de planification faite, mais il n'y a pas beaucoup d'informations qui sont disponibles sur le sujet. Cependant, il est très, très clair que les pressions de Donald Trump sur le Mexique d'agir contre les cartels ont eu une influence très forte, parce que M. Trump a dit que si le Mexique s'en occupait pas, ils allaient eux-mêmes, les Américains, envoyer soit des troupes ou plus probablement faire des frappes aériennes au Mexique. Donc le gouvernement mexicain a pris les moyens pour éviter que les Américains s'impliquent directement.
C'est une question quand même épineuse, mais est-ce qu'on va s'en sortir? Parce qu'on connaît le Mexique comme étant un peu corrompu, un peu étant un mot bien simpliste dans tout ça, mais le fait que cette armée-là, que je vais décrire, l'armée d'un super influent dans le monde de la drogue, soit très organisée, ait énormément de ressources et décide de prendre d'assaut certaines rues pour défendre celui qui a été tué, ça complexifie les choses dans un pays comme celui-là, non?
Oui, non, c'est sûr que les dirigeants du cartel, enfin les successeurs là, de El Mencho ont décidé d'attaquer où ça faisait plus mal, c'est-à-dire en partie l'industrie touristique, mais aussi d'autres industries. C'est certain qu'ils mettent des pressions politiques à travers leurs actions sur le terrain. L'armée mexicaine, les forces fédérales mexicaines, de façon générale, sont moins corrompues que le reste de la police et de l'appareil sécuritaire. Donc, on peut espérer qu'il va y avoir quand même un degré de succès là, de la part des autorités mexicaines pour réduire le pouvoir des cartels, mais ils vont pas disparaître. Ça, je pense qu'il faut être, ça serait très naïf de penser ça.
On envoie 2500 soldats supplémentaires dans l'ouest du pays, du côté du Mexique. Combien de temps cette guerre-là peut durer? Et là, je pense à nos auditeurs qui, eux, se sont réservés pour la relâche scolaire, un voyage à Puerto Vallarta, puis qui se disaient « Je vais-tu pouvoir y aller? »
C'est une bonne question. Ça pourrait durer un bout de temps. Je pense que le cartel va probablement lorsqu'ils auront marqué assez de points politiques pour montrer qu'ils sont capables de faire des choses, vont probablement se retirer et retourner à leurs activités plus régulières là, dans le criminel. Mais ça, on en a encore au moins pour une semaine, je dirais, avant que le cartel se retire. Parce que la différence, c'est qu'ils n'ont pas des ressources illimitées, contrairement aux forces armées, où ils ont beaucoup de ressources. Là, ils ont beaucoup de personnel, ils ont beaucoup d'équipement. Donc, ça va durer un certain temps, mais je suis pas sûr que ça va durer jusqu'à la mi-mars. Bon.
Assurément qu'on ne sera pas capable de démanteler ce qui avait été construit. On voyait encore des vidéos en 2020-2021 de l'ampleur de cette force d'El Mancho. Mais réellement, le gouvernement mexicain va réussir à remettre la paix et avoir un contrôle face à ces voyous-là, criminels-là?
Ben, ils vont être capables de rétablir un nouvel équilibre, je dirais, parce que le problème, c'est que les cartels... ont corrompu plein de politiciens, des juges, des gouverneurs des États, etc. Donc, c'est une première frappe, un premier coup dur contre les cartels, mais ils sont très loin d'être démantelés parce que la corruption, comme vous avez dit, est un peu plus qu'un petit peu au Mexique. Alors, c'est une tâche de longue haleine. On parle de probablement de décennies là, pour ramener le pays à un niveau de corruption beaucoup moins. Là. Donc, c'est une première frappe, mais ça ne changera pas la donne de façon drastique.
En terminant, Éric, il y a eu 30 décès confirmés du côté des cartels mexicains, 25 du côté des forces militaires mexicaines. Est-ce que ce nombre-là va augmenter en grand nombre dans la prochaine semaine?
De mon estimé à moi, je dirais qu'on va être probablement dans les quelques centaines des deux côtés. Je pense pas que ça aille dans les milliers, ça serait très surprenant parce que il faut se rappeler quand même que les criminels du cartel sont pas des gens qui ont la discipline des forces armées, donc éventuellement ils vont disparaître et retourner dans leurs activités criminelles. Donc, ça va durer un certain temps, mais ils ne peuvent pas continuer pour très, très, très longtemps.
Est-ce que l'industrie touristique risque d'être fractionnée à un niveau où on va avoir aussi pour une dizaine d'années à reconstruire à la suite de tout ça?
Ça, c'est possible. Puis je pense que c'est ce que les cartels cherchent à faire, c'est-à-dire pas tellement de malmener les touristes en ce moment, mais de malmener l'industrie. Donc, si on se rappelle, il y a un certain nombre d'années, à Cancun, il y avait eu des problèmes un peu similaires. Puis l'industrie touristique ça leur a pris plusieurs années avant de s'en remettre. C'est possible qu'on ait un scénario similaire cette fois-ci.
Éric Ouellet est professeur titulaire au département d'études de la défense au Collège des Forces armées canadiennes et au Collège militaire royal du Canada. Merci beaucoup, Éric, pour ta collaboration ce midi. Puis on te garde à l'œil parce que si jamais ça se met à brasser en Iran cette semaine, on va te reparler certainement.
D'accord, bien au plaisir.
Yes, au plaisir. Salut, Éric. C'était Éric Ouellet qui était avec nous, notre spécialiste en conflits militaires. Il y a aussi la Coupe du monde de football, c'est-à-dire de soccer, qui aura lieu Canada, États-Unis, Mexique dès cet été. Donc, c'est pour ça qu'on parle qu'il y a des négociations aussi entre les cartels et le gouvernement pour que tout ça se passe bien, parce que ça va être des millions, sinon des milliards de dollars en retombées économiques que le Mexique va bénéficier cet été.
Et on avait déjà fait en sorte de retarder, d'annuler, de déplacer des matchs qui étaient supposés avoir lieu dans les prochains jours.
Mm-hmm.
Au niveau du soccer, tu sais, qui est toujours d'actualité tout au
Exactement.
Long de l'année. Là.
Ouais. Pascal, tu as parlé avec un résident là-bas qui est au Mexique. Puis ce qui est intéressant, c'est que tu lui as parlé hier alors que ça explosait puis tout était en fumée. Là. Mm-hmm. Puerto Vallarta était un écran de fumée. Et tu y as reparlé ce matin.
Exact. C'est deux situations assez différentes, mais malgré tout, il y a une continuité. Hier, c'était le chaos. Tout le monde se demandait ce qui allait se passer. Puis ce qui est intéressant dans le discours du Québécois que j'ai contacté, c'est que lui, il n'est pas dans un tout-inclus. Tu sais, pour certains, être dans un tout-inclus en ce moment, il y a un minimum de sécurité. Mm-hmm. Mais là, eux autres, ils ont loué un condo dans lequel ils s'approvisionnaient par eux-mêmes et vivaient le Mexique à leur manière. Donc, pas avec des géos sur le bord de la piscine. Il me parlait de cette situation-là qu'ils vivaient hier, jour de chaos.
Depuis ce matin, tout est fermé. Puis en plus, ben, nous autres, c'est pas un hôtel tout compris, fait que il y a pas de bouffe ici. Et puis, moi, je suis diabétique, fait que il faut que je mange. Puis là, ben, on a trouvé un resto qui est ouvert jusqu'à 6 heures. Fait que mon ami Robin, il est parti là. Puis là, il a ramené un peu de nourriture. C'est l'enfer. On a vu de la boucane, mais c'était C'était spécial en maudit. On est un petit peu stressés, là. C'est juste que la bouffe, bien, on n'a pas, là. On ne sait pas quand est-ce que ça va recommencer.
Mais ils ont de la misère à s'alimenter, ils ont de la misère à trouver de l'eau, ils ont de la misère tout simplement à être dans un sentiment de sécurité. Ça, on était dans la journée de dimanche, donc d'hier. Aujourd'hui, c'est un peu plus calme, mais vous allez voir, il y a quand même des mesures de sécurité qui sont demandées.
C'est très tranquille. Il n'y a personne dans les rues. On n'a toujours pas mangé. Bon, un matin, j'ai réussi à avoir du café de l'hôtel, de notre condo, là, avec la fille de l'administration en bas. Parce qu'ils n'ont rien ici. Nous autres, on est en condo. Hein. Et puis, bon, on attend les événements. Là. On ne sait pas quand est-ce qu'on va repartir. On est supposé de revenir samedi, mais je ne suis pas certain qu'on va pouvoir partir samedi. Puis en espérant que j'ai mes deux amis avec moi là, qui sont partis là, à la recherche d'un dépanneur pour essayer de trouver quelque chose à manger. Là.
Ah oui, parce que tous les commerces sont fermés à l'heure actuelle. T'sais, la ville a été prise d'assaut là, par les cartels.
Quand on parle du chaos, ben depuis hier, c'était les motos qui se faisaient courir après avec leurs conducteurs pour les incendies. Mm-hmm. C'était on fait sauter des autobus. C'était on vient qu'à créer une panique sur les tarmacs d'aéroports. Les commerces, effectivement, étaient fermés parce qu'on ne savait pas si on allait être victime d'un attentat ou quoi que ce soit. Et les Mexicains sont rentrés chez eux. Là. Il n'y a pas de... On est là puis on ouvre le commerce pour les touristes.
Non,
pas du tout. On ne met pas notre vie en jeu. Donc, pour ceux qui n'ont pas de nourriture et qui arrivaient samedi, comme ce Québécois-là, bien, ils se disaient, on va faire une épicerie, puis on va être... Là, ils n'ont absolument rien, c'est particulier. Ils ont des nouvelles des autorités, mais très peu, même de la misère à entrer en contact avec les ambassades.
Là, j'ai bien de savoir qu'il y avait 2500 soldats qui arrivaient aujourd'hui ici. Quand? Je ne sais pas. On est confiant que ça se règle. Et puis, on n'est pas en danger. On est dans notre condo. On n'est même pas supposé de sortir dehors sur le balcon. C'est les avertissements qu'on a eus. À part de ça, là, je pense que vous en savez plus que nous autres, parce que nous autres ici, c'est la TV espagnole, on parle pas espagnol. Moi, je parle anglais, mais c'est tout.
C'est fou, ça, par contre, hein, pas capable d'avoir d'informations
ben oui.
au niveau de leur sécurité. On sent bien, probablement parce qu'ils sont dans leur condo. Par contre, on leur dit, vous sortez pas sur les balcons. Et il y a plusieurs Québécois, quand tu vois dans l'actualité, le disaient. Donc, on est un peu confinés, on dirait un genre de COVID 2.0, mais au niveau d'attentats puis de chaos.
Vraiment. Hey, d'autant plus que c'est 26 000 Canadiens qui se retrouvent présentement au Mexique. Et la ministre, justement, Anita Hannan, des Relations internationales, a dit, suivez les instructions locales et demeurer à l'intérieur, mais suivre les informations locales quand tu les as pas, c'est tough.
Ben oui, ou tu les comprends pas.
C'est ça.
Je vais terminer avec une clip sur l'alimentation parce que ben, pour ce Québécois-là, il y a du diabète. Et un fait intéressant, et je rappelle à tout le monde à quel point des fois on peut négliger ça. Par chance, il a pris de la médication pour une semaine de plus. Donc pour une semaine plus... celle qu'il avait pour sa semaine de voyage au cas où. Donc, il y a des médicaments pour deux semaines au final quand il était là pour une semaine. Ça peut aider dans sa situation. On ne sait jamais ce qui peut arriver quand on pense qu'on va être correct au Mexique. Mais il faut qu'il se débrouille. Là. Il n'y a personne qui les aide pour manger en ce moment.
Et on s'est dit, ben dimanche matin, on va aller chercher l'épicerie. Et on a eu le temps d'aller déjeuner dans un restaurant puis tout a fermé. Fait que c'est ça. On est pogné sans bois. L'eau, ben, on fait bouillir de l'eau au condo pour avoir au moins de l'eau pour boire.
Donc, c'est vraiment un bon conseil de voyage. C'est-à-dire, amenez un petit peu plus de médication. Amenez-vous des denrées en un petit peu plus grand nombre parce que malheureusement, avec ce qui se passe en géopolitique à l'heure actuelle, on ne sait pas où ça va exploser.
Je ne sais pas si on va se mettre à apporter des cannes, des canages dans nos bagages, mais au niveau de la médication, c'est toujours important. Ils ne savent pas. Encore à ce moment-ci, Jeff, ils ne savent pas à quel moment ils vont revenir.
Non, exactement. Donc, on va suivre la situation de près. Je vous rappelle, sur le blvd.fm, notre entrevue qu'on a fait avec Éric Ouellet va se retrouver également sur notre site web. Et ce matin aussi, dans Marceau le matin, on avait parlé avec Steve, un ami d'Yannick, qui est aussi là-bas à Puerto Vallarta et qui était là, justement emprisonné dans son propre condo.
Le midi, on en jase à Boulevard 102.